liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquet.
Et en fait, c'est qu'on croit qu'il s'agit d'une découverte récente. Non, je crois que la façon la plus simple de faire comprendre ce que c'est que le structuralisme, dire nous avons affaire, nous autres qui étudions les hommes ou les sociétés humaines, à des objets qui sont extraordinairement compliqués, qui sont en réalité beaucoup plus compliqués que les plus compliqués de ceux que nos collègues biologistes ou physiciens étudient. Et donc, à la limite, nous ne sommes pas capables de décrire de façon satisfaisante. Un petit peu comme un visage humain. Enfin, vous pouvez lire pendant 20 pages de Proust la description du visage d'Odette de Crécy, disons. Vous ne verrez pas Odette de Crécy. Tout ce que vous saurez, c'est qu'elle n'avait aucun rapport avec René Lamouti. Mais enfin, vous ne pourrez pas voir le visage d'Odette de Crécy. Et c'est à l'époque de la Renaissance qu'un grand peintre allemand, Albert Dürer, s'est aperçu, parce qu'il était peintre, c'était un problème qui le préoccupait, il dessinait, que s'il n'était pas possible de décrire très exactement un visage et un autre visage, on pouvait trouver une règle de transformation très simple qui permettait de passer de ce visage A à un visage B, par une déformation en elle-même facile à réaliser. Eh bien, au fond, le structuralisme, c'est ça. C'est en face d'objets très compliqués, de se dire, nous n'essayerons pas de décrire ces objets dans les moindres détails parce que nous n'y arriverions jamais. Une vie ne serait pas suffisante pour décrire une heure de la vie d'une société humaine de 50 personnes. N'est-ce pas ? Mais nous essaierons de comprendre quelle est la différence entre cette société et une autre société. Et nous apercevons que si chacune de ces sociétés prises à part est très compliquée, en réalité, la différence entre elles, la relation entre elles peut être plus simple.
Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous pensiez de mon livre.
Je suis sûre qu'ils pensent la même chose que moi, mais qu'ils n'osent pas le dire.
Moi, je pense qu'ils sont surtout condescendants.
Pourquoi condescendants?
Parce que vous avez tous les deux couché avec moi.
Quel rapport avec ce qu'on peut penser de ton livre?
Je pense que pour le genre d'homme que vous êtes, il y a toujours une forme de lutte de pouvoir dans l'amour. J'ai souvent entendu Rémi dire qu'il voudrait coucher avec une grande intellectuelle comme,
Susan Sontag.
Oui, c'est ça, oui. Au fond, c'est une volonté de se l'approprier, d'avoir le dessus sur elle, presque physiquement.
Faut pas exagérer quand même. Ça peut juste être le désir de partager et d'avoir accès.
Peut-être. Mais moi, je me méfie toujours de la condescendance des hommes qui m'ont fait jouir. C'est une femme que j'ai eue. Enfin, je dis ça. Peut-être que je me trompe.
Thank you.
Mais qu'est-ce que vous appelez un mythe?
Si on voulait chercher des définitions, on en trouverait probablement autant que chacun des peuples auxquels on les emprunte. Mais disons en gros que, enfin, les mythes, ce sont des histoires que les gens se racontent ou qu'ils entendent raconter et qu'ils considèrent comme n'ayant pas d'auteur. Non pas, bien sûr, qu'elle n'en est pas, mais parce que ce sont des histoires qui se sont incorporées au patrimoine collectif du fait d'avoir été répétées et transformées au cours de ces répétitions successives, et par le moyen desquelles chaque société essaye de comprendre à la fois comment elle est faite, les rapports de ses membres avec le monde extérieur et la position de l'homme dans l'ensemble de l'univers. Ce sont donc des histoires qui tendent à fonder, par ce qui s'est passé à l'origine des temps, la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont. Et quand je veux dire les choses sont comme elles sont, c'est aussi bien pourquoi le soleil et la lune se trouvent là où ils sont et non pas plus près ou plus loin, que pourquoi dans telle société prédomine la filiation matrilinéaire ou la filiation patrilinéaire dans telle autre, pourquoi l'une est organisée sur une base égalitaire et pourquoi dans l'autre il y a des différences de statut, et ainsi de suite. Seulement, le propre du mythe, je dirais, est que, alors que nous-mêmes, enfin procédant parce que nous considérons comme une explication scientifique, nous nous efforcerions pour chacun de ces domaines de faire prévaloir un type d'explication particulier, et que nous emprunterions à la physique ou à la cosmologie pour les grands phénomènes de l'univers, ou bien à l'histoire pour ceux de la société, les mythes essayent de donner de tous ces phénomènes une interprétation globale. Et autrement dit, de situer dans ce que j'appellerais une seule matrice, un seul moule d'explication, la raison pour laquelle, disons pour simplifier énormément, le soleil pourrait être beaucoup plus près de la Terre, mais alors la Terre entrerait en conflagration et les hommes mourraient dans un incendie général, ou bien il pourrait être beaucoup plus loin, et alors ce serait la nuit perpétuelle et la pourriture régnerait sur l'ensemble de la Terre, et donc il faut qu'il soit à bonne distance. Et de la même façon, par le même principe d'explication, on essayera de rendre compte de la raison pour laquelle, disons, dans les sociétés, l'inceste, c'est-à-dire le mariage trop rapproché, est interdit. Pourquoi le mariage trop éloigné est également exclu, parce que ce serait un mariage avec des ennemis qui exposeraient le groupe à toutes sortes de dangers, et pourquoi il doit se faire à bonne distance. Et entre ces deux extrêmes, disons la place du soleil par rapport à la Terre et la distance à laquelle il est convenable d'aller chercher ses épouses, eh bien se situe toute une gamme de problèmes intermédiaires qui relèvent à un bout de la physique ou de la zoologie ou de la météorologie, à l'autre bout des problèmes d'organisation sociale. Et le propre du mythe, c'est de construire une explication sur plusieurs registres, un petit peu à la façon d'une partition d'orchestre où chaque instrument contribue au message total, ou chaque groupe d'instruments contribue au message total, mais le message total n'étant donné que par l'ensemble de l'orchestration, eh bien, le mythe, c'est un type d'explication qui procède sur le même principe et qui essaye de faire concourir toutes les difficultés, tous les problèmes qui peuvent se poser à l'homme dans différents domaines à la construction d'un seul modèle d'explication.
Have fired their weapons, but now back in the head.
Qu'est-ce qui vous paraît caractériser le catch, ou expliquer même en un sens le succès du catch sur le public?
Oui, À une époque, je suis allé très souvent au catch, surtout dans une petite salle assez populaire qui est l'Élysée Montmartre.
Oui.
Et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle dit sportif, n'est-ce pas, en réalité, recoupait assez ce qu'on connaît, par exemple, de la Commedia dell'arte. N'est-ce pas, c'est une sorte de scénario sur lequel les catcheurs improvisent des épisodes. Mais tous ces épisodes et ce scénario ont, à mon sens, un sens essentiellement moral, c'est-à-dire qu'il s'agit de mimer, d'improviser, les images ancestrales, en quelque sorte, du combat avec la figure de la justice, du triomphe, de la défaite, du supplice, et c'est surtout, ça. Alors, essentiellement, du paiement. C'est pas le cas. La justice du catch est une justice du paiement. On entend très souvent le public crier « fais-le payer ». Il s'agit de faire payer le salaud.
Oui, c'est-à-dire que vous écrivez dans votre livre que le catch est fait pour exprimer une certaine idée de la justice, en quelque sorte.
Exactement.
Oui. Que pensez-vous du beefsteak pommes frites ?
Ah oui, j'en ai parlé aussi, parce que c'est un... Ça, vraiment, tout le monde, je crois, peut être d'accord que c'est un grand mythe national français. Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps, enfin il y a déjà assez longtemps, un film d'espionnage français où à un moment la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon beefsteak. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit « Et moi qui lui ai donné de mon beefsteak ». Il s'agit vraiment que le beefsteak fonctionne ici comme une sorte de symbole patriotique de la France.
Oui, je crois même que dans des circonstances, disons, plus actuelles et plus militaires, le beefsteak jouait aussi un rôle dans certains reportages cités par vous sur le général de Castres.
Oui, quand on a libéré le général de Castres, il a réclamé comme premier plat des frites.
Oui, vous savez, c'est un terme qu'on m'a beaucoup reproché parce qu'on a dit il n'y a pas de société froide, il n'y a pas de société chaude. Bien sûr, ce sont, comme disait Rousseau quelque part, de ces hypothèses à la façon de celles que font les physiciens pour expliquer le monde.
Vous avez été très attaqué là-dessus.
Oui.
Par les historiens, par les...
Bon, ce sont deux limites idéales, deux limites théoriques entre lesquelles s'échelonnent les sociétés. Mais aucune ne peut être dite absolument froide et aucune ne peut être dite absolument chaude. Il n'en reste pas moins que certaines sociétés, celles qu'étudient les ethnologues, et encore là, je devrais être plus mesuré, des sociétés qui se trouvent parmi celles qu'étudient les ethnologues.
Oui.
Parce qu'évidemment, ça ne s'appliquerait pas à ces grandes sociétés africaines qui, même avant l'époque coloniale, comptaient des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers d'habitants, qui avaient une organisation politique et qui avaient une histoire dont elles étaient conscientes. Mais enfin, certaines de ces sociétés, et celles notamment que je trouvais en Amérique du Sud, sont des sociétés, non pas primitives, comme nous disons, mais ce qui rend le terme légitime, c'est qu'elles ne sont pas primitives, mais qu'elles se voudraient primitives. Qu'elles se voudraient telles qu'elles s'imaginent qu'elles ont été créées à l'origine des temps.
Et qu'elles sont restées telles.
Oui, qui se l'imaginent, c'est une illusion. Et qui donc essayent de fonctionner à ce que j'appellerais un zéro de température historique. Chaque fois qu'un changement se produit, eh bien, on déploie tous les efforts possibles, vains, bien entendu, mais tous les efforts possibles pour l'annuler et pour revenir à la situation initiale. Et rien ne s'oppose plus à nos sociétés que j'appelais chaudes, à l'exemple de la machine à vapeur, et qui prennent l'histoire comme moteur interne de leur développement.
Au nom du progrès.
Qui vivent, oui, dans un état de progrès technologique ou progrès social, ou tout ce que vous voudrez, mais qui se veulent dans un état de déséquilibre permanent qui est la condition même du changement qu'elles souhaitent et qu'elles ressentent comme leur milieu naturel.
Déséquilibre entre quoi et quoi ?
Déséquilibre entre le passé et le présent, mais un déséquilibre qui ne peut aussi se produire qu'à condition qu'il existe aussi entre les sous-groupes de la société et que, par conséquent, et je pense que c'est là l'origine des divisions en classe, enfin l'origine pas historique bien entendu, mais l'origine logique des divisions en classe, de l'exploitation de l'homme par l'homme, enfin, tout ça, qu'il faut un déséquilibre interne pour fabriquer de l'énergie, énergie qui elle-même est appliquée au changement.
Une différence potentielle.
Une différence de potentiel entre une source chaude et une source moins chaude.
Qui fait que la machine
comme on nous dit en thermodynamique.
C'est ça.
Qui fait que la machine fonctionne.
Mais alors, je reviens à ces sociétés froides, entre guillemets, qui ne le sont pas tout à fait, qui veulent l'être.
Qui voudraient l'être.
Qui veulent l'être. Tout de même, elles sont obligées d'intégrer les transformations. Elles ne peuvent pas ne pas se rendre compte que peu ou prou et lentement, elles se transforment.
Elles se transforment, enfin, distinguons. Elles savent bien entendu qu'actuellement, elles se transforment et qu'elles disparaissent.
À cause de nous.
À cause de nous. Et qu'elles en éprouvent une mélancolie très intense, enfin, de cette mélancolie qui, au moment du peuplement des Antilles, au XVIe, au XVIIe siècle, a fait que des populations entières ont disparu, non pas qu'elles aient été exterminées, mais tout simplement parce qu'elles avaient perdu le goût de vivre et donc de se reproduire. C'est pas, qu'elles se sont éteintes. Alors, là, ça, ce sont des circonstances exceptionnelles. Bon, supposons-les avant l'ère coloniale, supposons-les avant des interventions extérieures, j'admettrai bien que à certaines époques, à certains moments, il y ait pu avoir une volonté de changement. Seulement, quand il y a eu volonté de changement, on s'efforce immédiatement de la faire rentrer dans la norme en remaniant les croyances et la mythologie de façon que ce changement même apparaisse comme ayant été instauré dès l'origine des temps. Et en proclamant, si mon interprétation est exacte, que des réformateurs d'il y a un, deux ou trois siècles, je ne sais pas, eh bien n'étaient autres que le grand héros culturel qui a donné à la société Bororo la forme immuable qu'elle possède depuis l'origine des temps. Et ce qui est un type de raisonnement que nous autres, nous ne ferions jamais. Au contraire, nous tirerions gloire de la réforme qui s'est produite à telle époque, à tel moment, nous élèverions des statues à celui qui l'a fait, on écrirait des livres sur lui et on le donnerait en exemple d'autres changements qu'il convient de faire et d'autres progrès qu'il convient d'accomplir.
Oui, parce que je crois que ça, c'est à cause de l'ère scientifique, du continent scientifique dans lequel nous sommes implantés depuis quelques siècles maintenant, l'idée à la fois de vérité et de progrès est liée à l'idée de changement.
Bien sûr, enfin, la science et la technologie ayant introduit toutes sortes de bouleversements dans notre vie, nous avons pris l'habitude de nous penser nous-mêmes dans le bouleversement et dans le changement.
La seule certitude qui nous reste, c'est la capacité d'agir de notre corps. Si j'aime, je bande. Si je bande pas, j'aime pas. C'est la seule façon de ne pas se compter d'histoire. Comme les femmes qui te disent « je t'aime » comme au premier jour, puis qui sont sèches comme du papier sablé. Alors que tu les as connues mouillées au dernier degré, juste après les avoir embrassées dans le cou.
J'adorerais, demain, ne plus aller au travail. Faire autrement. Et ce qui me retient, finalement, de prendre immédiatement cette décision de le faire, c'est la peur d'être pauvre. C'est la peur, demain, de me dire comment je vais faire. Déjà, rien que l'idée d'être au chômage, par exemple. Ça veut dire réduire ma façon de vivre de moitié. Du coup, je l'aime bien, ma façon de vivre. Du coup, je suis obligée de me poser cette question. Qu'est-ce que je sacrifie et tout, machin. Et puis,
tu l'aimeras à moitié bien.
Et je l'aimerais à moitié bien. Et d'un seul coup, si demain, vraiment, si mon travail, il devient...
Tout le monde veut répondre dans la
classe. Si demain, il devient trop dur, Il faudrait que j'en parte. Mais ça veut dire, j'ai plus rien du tout. Et cette peur-là, elle me retient. Du coup, je peux imaginer des remparts à ça. Mais n'empêche que fondamentalement, c'est la peur d'être pauvre qui m'empêche de prendre cette décision-là.
Et vous savez, quand on s'imagine que l'homme dit primitif ou sauvage ou tout ce que vous voudrez, qu'il était en proie à, disons, la nécessité d'assurer son existence parce qu'il était constamment menacé par le froid, par la faim, par la maladie et que tout son temps se passait à essayer de subsister, il n'y a rien de plus faux. 3 heures, 4 heures de travail, quelquefois moins, ça suffit très largement pour assurer les besoins d'une famille. Bien sûr, ce sont des besoins très réduits. Ce sont des gens qui ont peu de besoins, mais qui peuvent les satisfaire à très bon compte et qui alors disposent d'un temps considérable, eh bien, pour le loisir, ou pour chanter, ou pour danser, ou pour pratiquer leur culte, religion. Et c'est ça que j'appelle cette chance qu'a eu l'humanité d'interposer entre elle et le monde extérieur des coussins amortisseurs.
Au fond, en extrapolant ce que vous dites, mais peut-être vous ne l'accepterez pas, on pourrait dire que l'humanité a eu tort de ne pas s'en tenir là.
C'est très difficile de dire des choses comme ça. L'humanité a fait des choix et, disons, tous les types de vie que nous pouvons observer, et Dieu merci, il y en a encore de très différents à la surface de la Terre, eh bien, ça représente un certain nombre de choix parmi les possibles. Alors, quand on choisit, eh bien, on s'assure certains avantages et on en abandonne, on renonce à certains autres.
C'est pas une réponse de Normand, ça.
Non, ça n'est pas une réponse de Normand, parce que je ne pense pas qu'il existe aucun critère philosophique ou morale qui nous permettent de dire qu'un choix est absolument meilleur qu'un autre. Après tout, notre société, notre humanité, la société occidentale, a choisi la technologie. Et là, elle a bien entendu une supériorité écrasante sur toutes les autres et elle est au-dessus de toutes les autres sociétés. En même temps, ça l'a privée d'une quantité de possibilités qu'elle a abandonnées.
Non seulement, oui.
Oui, et d'autres peuples qui nous paraissent au comble de la sauvagerie, bien, je dirais beaucoup plus tôt que tout se passe comme si, parce que bien entendu ça n'a pas été un choix conscient, mais que tout se passe comme si, eh bien, ils avaient choisi d'autres valeurs et avaient renoncé à celles que nous-mêmes avons préférées. Mais je serais tout à fait incapable d'affirmer qu'un choix est supérieur à un autre choix. Tout ce que je peux dire, c'est que, enfin, mes affinités personnelles, mais épidermiques, ça n'a aucune espèce de valeur. Enfin, me porterait peut-être vers un choix différent que celui de la société dans laquelle je vis. Et encore, je ne suis pas sûr. Parce que si je devais rechercher, enfin, il serait vain, inutile, absurde de se dire qu'on voulait être né Bororo ou né Nambikwara. Nous sommes beaucoup trop loin pour pouvoir faire un jugement.
Ça, c'est comme l'histoire de Robert Sommel qui s'en va au rencontre muséologique de Venise.
Je sais, j'étais avec lui.
Ah oui, c'est vrai. Alors, t'es au courant qu'il y a eu une aventure brûlante avec une Italienne?
Non, c'était pas tout à fait une aventure. Il a passé une nuit avec Francesca Messerona, la spécialiste des Polaïwolo.
En tout cas, moi, sa femme m'a dit que ça avait été beaucoup plus qu'une nuit.
Non, seulement la dernière nuit, c'est lui qui me l'a dit.
En tout cas, ce qui est arrivé, c'est que quand il est arrivé à Montréal, il a dit à sa femme...
Il a rien dit à sa femme.
Comment ça? C'est elle-même qui me l'a raconté.
C'est lui qui m'en a parlé.
Bon, ben écoute, on va demander à Dominique, c'est un de ses amis. Dominique!
Oui?
Robert Sommel, qu'est-ce qu'il a raconté à sa femme en revenant d'Italie?
Je sais pas. Y a-t-il qu'il y avait eu une aventure?
Mais non. Moi, la façon dont j'ai compris l'histoire, c'est qu'au moment où il allait avouer, sa femme lui a dit qu'elle avait couché avec un autre homme pendant son voyage. C'est ça qui l'a jeté par terre.
Sa femme lui a jamais dit ça.
Mais non, c'est impossible, ça.
Non, ce qui s'est passé, c'est que sa femme se doutait de quelque chose.
Non, sa femme se doutait de rien. Mais oui, c'est ça, parce que c'était douté de quelque chose.
Écoute, ça se sent, ces choses-là.
Non, c'est lui qui a senti un malaise.
Non, écoutez, je connais très bien Robert. Il m'aurait pas menti.
En tout cas, il y en a un des deux qui ment. Puis moi, je serais plutôt portée à faire confiance à sa femme. Moi aussi, t'as raison.
Au fond, c'est un hypersensible. C'est vrai.
Oui, c'est surtout la peau qui est sensible.
Tu trouves qu'il y a la peau sensible, toi?
Moi, je vous jure que ça s'est passé comme ça.
Moi, j'ai l'impression qu'on saura jamais vraiment le fond de l'histoire.
Mais est-ce qu'on peut, en se plaçant de notre point de vue, espérer que l'étude de ces sociétés peut nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et le fonctionnement des nôtres?
Qui nous sommes en tant qu'homme? Certainement. Certainement, puisque, après tout, ces sociétés représentent des centaines ou des milliers d'expériences toutes faites. Nous ne pouvons pas aller fabriquer des sociétés humaines dans notre laboratoire pour vérifier certaines hypothèses, et nous ne pouvons pas agir sur des sociétés existantes, à la fois pour des raisons d'ordre très pratique et terre à terre, et pour des raisons d'ordre moral, à supposer que les premières soient résolues, à la même fin. Et donc nous sommes obligés d'aller où les hommes ont réalisé spontanément certaines expériences. Et s'imaginer que nous pouvons comprendre quelque chose à l'homme en nous limitant à ce qui s'est passé dans un tout petit secteur de la Terre et pendant une fraction infime comparée à la durée de l'existence de l'homme, de son développement, c'est évidemment tout à fait illusoire. Donc je pense, je suis convaincu que c'est seulement par l'ethnologie, ou en tout cas grâce à sa contribution, que nous pouvons espérer comprendre un peu mieux, parce que nous ne le comprendrons jamais complètement, n'est-ce pas ? Il n'est pas question de ça. Mais comprendre un peu mieux, faire quelques progrès dans la compréhension de ce que c'est que l'homme et des mécanismes de la pensée humaine. Maintenant, ce que nous pouvons probablement en attendre, attendre de l'ethnologie, du point de vue du salut de notre propre société, c'est de nous inspirer une certaine sagesse, de nous fournir, mais ça c'est la mission, la fonction qu'a rempli l'ethnologie depuis Rabelais et depuis Montaigne, et aussi avec Rousseau, c'est en nous fournissant le moyen de critiquer nos propres institutions par le spectacle ou la considération d'institutions étrangères, nous montrer qu'elles ont une valeur toute relative et que nous ne devons donc pas nous halluciner ou être obsédés par elle. C'est avoir le sentiment constant que d'autres hommes ont pu vivre et être heureux avec des modes de vie, d'organisation sociale, de croyances entièrement différents des nôtres.
Qu'est-ce qui vous paraît expliquer le prestige de Einstein ? Sur le public, je pense, je ne parle pas chez les mathématiciens, sur le grand public.
Oui, sur le grand public, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un mythe assez ambigu qui est fait de deux éléments. Il y a d'une part l'idée d'une sorte de cerveau génial, mais tout de même mécanique, n'est-ce pas, fonctionnant comme une sorte de machine. Et alors, d'autre part, comme élément, ce cerveau génial produit un savoir qui peut être entièrement contenu dans une sorte de formule mystérieuse, exactement comme du temps des anciens hermétistes.
Oui, c'est-à-dire la réduction de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes et toutes les difficultés du monde à une petite formule mathématique.
C'est ça, comme si quelques lettres bien trouvées suffisaient à ouvrir était la clé qui ouvrait l'univers. Oui.
Ce qui est d'autant plus puissant chez Einstein que cette formule, on n'en parlait que pour dire qu'il l'a cherchée, mais qu'il ne l'avait pas encore trouvée, d'ailleurs.
Exactement, oui. Ce qui a d'ailleurs permis de garder la part de la spiritualité, qui est toujours nécessaire.
Et qu'est-ce que vous pensez des matières plastiques ?
Ah, le plastique, j'avais été également très frappé par l'aspect magique que la publicité, n'est-ce pas, donne par exemple à cette substance. Je me rappelle avoir eu une exposition de plastique aux Galeries Lafayette, où il y avait un grand appareil tubulaire très compliqué. À un bout, on enfournait des sortes de matériaux, de minéraux verdâtres et rosâtres, et en une seconde, à l'autre bout, sortait un cendrier tout fait. N'est-ce pas ? Comme si on se trouvait devant une transformation magique, presque une opération de sorcellerie sur la matière.
Oui. Vous ne pensez pas aussi que ce qui fait peut-être l'une des... ce qui caractérise la puissance magique du plastique, c'est que il ment et que son aspect extérieur ne ressemble pas du tout à ce qu'il est à l'intérieur. Moi, j'ai souvent été frappé par un objet en plastique cassé, par exemple. Ça ressemble à de la ficelle ou à du carton, n'importe quoi, mais ça ne ressemble pas à ce qui est à l'extérieur.
Absolument. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des jouets très peu poétiques.
Oui.
Parce que quand ils sont cassés, ils ne sont plus du tout beaux.
Dernière question. Vous écrivez dans votre livre que la nouvelle Citroën, ce n'est pas du tout de la publicité que vous allez en lui faire, la nouvelle Citroën, dites-vous, est-ce qu'il ressemble plus, selon vous, aux cathédrales gothiques ? J'aimerais que vous expliquiez.
Oui, c'est une sorte d'image de début que j'ai employée, parce que je crois en effet que maintenant, une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps rencontre une très grande consommation collective, exactement comme pouvait être à la fois produite et consommée les grands édifices religieux du Moyen-Âge.
Oui, mais vous pensez qu'il y a un mythe citroëniste ? Je crois d'ailleurs. Je sais pas comment.
Oui, c'est bien possible. Enfin, la nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS19, a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, luisant, sans jointure, avec beaucoup de vitres, une sorte d'objet tombé du ciel, comme dans les contes de Voltaire.
Tu vois, ma théorie, c'est que notre instinct de chasse primitif n'a pas d'exutoire dans la société moderne.
Ah, d'accord, ouais.
Donc, plutôt que de traquer des animaux, on fait aujourd'hui du shopping à la place et on fait la chasse aux objets.
D'accord.
Et ensuite, Jessie, pendant qu'on dort, les objets prennent vie et se préparent en secret à dominer notre civilisation. Le 1er avril 2007, c'est ce jour-là qu'ils prendront le pouvoir.
Ah, d'accord, ouais.
Je crois que pour comprendre ce que c'est qu'un mythe, il faut se placer dans une perspective tout à fait différente. Il faut concevoir le mythe comme une sorte de super langage. Et je m'explique, n'est-ce pas, de même que le langage fait des phrases avec des mots, le mythe qui se sert du langage fait des espèces de super phrases avec des phrases. Et c'est par conséquent en prenant le mythe scrupuleusement pour ce qu'il est, en considérant que le moindre détail, aussi absurde qu'il puisse paraître, aussi produit de la fantaisie du narrateur, a une importance et est là parce qu'il doit être à sa place, qu'on peut arriver, en juxtaposant toutes les phrases du mythe, à dégager cette espèce de sens qui n'existe nulle part en particulier, mais qui résulte de la vision totale que nous essayons d'en prendre.
Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ces constantes que vous appelez des structures ?
Si vous voulez, je procéderai par analogie. Je dirais, supposer un martien qui débarque un jour sur la Terre et qui sache par quelque hasard que les hommes de notre civilisation écrivent ligne après ligne et en lisant de gauche à droite. Et puis qu'il tombe sur une partition d'orchestre. Cette partition d'orchestre, il ne saura pas que c'est autre chose qu'un livre comme d'autres livres, et il essayera lui aussi de la lire ligne après ligne, de gauche à droite, et à supposer qu'il ait le sentiment de la musique et de notre musique, il se dira « mais ça n'a aucun sens ». Et puis à force d'essayer de lire de cette façon-là, il s'apercevra que dans la suite de ce qui lui apparaît comme une mélodie, il y a des récurrences, il y a des choses qui se ressemblent. Et il aura peut-être alors l'idée de mettre l'une au-dessus de l'autre toutes ces choses qui se ressemblent, et au lieu de lire sa partition de manière linéaire, à la lire sans doute de gauche à droite, mais plusieurs portées simultanément, le sens se dégageant de la superposition en quoi consiste en musique l'harmonie.
On des Alpener ben plus, 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 mais son couscous d'hydrous, on des Alpener ben plus, mais son j'ai couscous d'hydrous. Mais que les vases entrent en herzone, 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 veulent y gérer des talons, mais que les vases entrent en herzone, veulent y gérer des talons.
J'ai écrit une fois, et je continue à croire que c'est le grand mystère des sciences de l'homme, et que le jour où nous aurons compris ce que c'est vraiment que la musique, nous aurons fait un très grand pas pour comprendre ce que c'est que l'homme.
C'est parce que c'est l'art le plus mystérieux que c'est l'art qui vous fascine.
Je ne sais pas s'il est mystérieux pour les musiciens de profession.
Mais pour vous, il l'est.
Mais pour moi, il est extrêmement mystérieux parce que c'est quelque chose qui parle, mais qui parle sans langage. N'est-ce pas ? Quand il s'agit d'un roman, quand il s'agit de poésie, quand il s'agit d'un tableau, bon, on a toujours, je dirais, l'illusion du figuratif. On peut se raccrocher à ce dont on parle ou à ce que ça représente. Mais la musique ne parle de rien, et elle ne représente rien qu'elle-même, et elle ne parle de rien qu'elle-même. Et tout de même, Quand nous l'écoutons, nous avons l'impression d'entendre un discours, et un discours qui veut dire quelque chose. Je veux dire un discours qui, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'auditeur, organise des sens. En fait, il y a une espèce de renversement. Quand je regarde un tableau, c'est moi qui regarde le tableau, du moins j'ai cette impression. Et c'est le peintre qui me dit quelque chose à travers le tableau. Tandis que la musique, c'est moi qui m'écoute à travers elle, comme si j'étais le producteur de la musique. Tout se passe à l'envers.
Nous nous reconnaissons en elle.
Oui.
On peut imaginer pourquoi et comment ça procède, comment ça fonctionne. Ça.
Le vrai problème, le premier problème, je dirais, c'est de comprendre comment c'est fait. Et un jour, une revue américaine que vous connaissez comme moi et qui s'appelle Playboy et que je lis assez régulièrement parce que c'est la façon dont je peux entretenir mon anglais, a fait un compte-rendu dans d'un de mes livres. Et j'ai eu le sentiment qu'il ne comprenait pas très bien ce que j'avais essayé de faire. Et alors, je leur ai écrit en leur disant que dans quelque domaine que ce soit, on ne pouvait comprendre la manière dont les choses fonctionnent que quand on savait d'abord comment elles sont faites. Et j'ajoutais que, après tout, l'anatomie, ça venait avant la physiologie, et que les lecteurs de Playboy devraient savoir mieux que personne que Anatomy comes first. Eh bien, il faut d'abord faire l'anatomie. Il faut d'abord savoir comment les choses sont faites. Et un des grands problèmes, me semble-t-il, c'est de comprendre comment la musique est faite.
Nous y tréménasseurs, 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 venus à grand crinien d'oir, nous y tréménasseurs, à grand crinien d'oir, par l'air picoloine, par picoloine, par l'air picoloine, l'air picoloine, par l'air picoloine, piqué dans ton étoile, par l'air picoloine, piqué dans ton étoile.
Mais si on commence par ça, est-ce qu'on ne risque pas de ne jamais atteindre le vivant de la musique ? C'est un reproche, vous le savez, qui vous est fait souvent. C'est que le fait d'anatomiser, de regarder, de scruter, de classifier, de mettre de l'ordre, appauvrit le réel. Qu'il soit le réel de l'art, le réel des mythes, le réel des sociétés.
Là, je dirais que je ne peux rien concevoir de plus inepte qu'un reproche de ce genre. Comprendre n'appauvrit jamais. Comprendre vous donne au contraire de nouvelles raisons d'aimer d'abord, et puis de découvrir des choses qu'on n'avait pas aperçues et qui viennent enrichir par derrière ce qu'on affirme qu'on a appauvri par devant. Enfin, il y a pas mal d'années déjà, Jacobson et moi, nous avons consacré 40 pages à essayer de comprendre comment était fait un sonnet de Baudelaire. Et un sonnet...
Les chats.
Oui, les chats, ça n'est pas long, ça fait 14 vers. Je ne crois pas que de cet effort, enfin, nous ayons nous-mêmes tiré je ne sais quelle indifférence à la beauté de Baudelaire. Bien au contraire, nous avons découvert un nombre incroyable pour nous, enfin, de beauté que nous ne soupçonnions pas, je veux dire, de choses, précisément en essayant de l'analyser. Parce que...
Oui.
Enfin, cette critique reviendrait à dire que le linguiste qui se consacre à l'étude de sa langue et qui essaye de comprendre si les Français, comment le français est fabriqué et comment le français fonctionne, de ce fait, perd le sentiment de la beauté de sa langue. Non seulement il ne le perd pas, mais il apporte un nombre considérable de raisons qu'il justifie.
Je crois que ce qu'on veut dire par là, c'est que les justifications accumulées, les analyses faites, ne sont jamais assez complètes, exhaustives, pour parvenir à combler la plénitude de la beauté.
Mais bien sûr, mais ça va de soi. Parce que si le contraire était vrai, enfin, ça voudrait dire que la science s'arrêterait tout à coup parce qu'elle serait arrivée au bout. Et ça, c'est totalement inconcevable. Il est bien clair que chaque fois que nous arrivons à réduire un certain niveau d'obscurité, eh bien c'est pour en voir par derrière en apparaître un autre qui nous invite à nous attaquer à lui et à le réduire, pour en voir en apparaître un autre et ainsi de suite. C'est donc découvrir, c'est un moyen de découvrir toute la richesse du réel et une richesse que nous n'aurions pas soupçonnée si nous ne nous y étions pas attaqués.
Et qui est inépuisable, donc.
Et qui est bien certainement inépuisable.
Vous dites ça avec satisfaction.
Mais je dis ça avec satisfaction, je répéterai ce que je disais il y a un instant, parce que si c'était épuisable, ça voudrait dire qu'il y aurait un moment qui viendrait où il n'y aurait absolument plus rien à chercher.
Mais c'est décourageant aussi, non ?
Mais non, c'est pas décourageant, c'est très exaltant.
Et pourtant, je pensais à cette sorte d'éloge de l'obscur qui se trouve dans les mythologiques. Qu'il me soit permis d'espérer que le lecteur sera, par le mouvement qu'il éloignera du livre, transporté vers la musique qui est dans les mythes, telle que leur texte entier l'a préservée. Avec, en plus de son harmonie et de son rythme, cette secrète signification que j'ai laborieusement tenté de conquérir, non sans la priver d'une puissance et d'une majesté, connaissable par la commotion qu'elle inflige à qui la surprend dans son premier état. Tapis au fond d'une forêt d'images et de signes, et tout imbu encore des sortilèges grâce auxquels elle peut émouvoir, puisqu'ainsi, on ne la comprend pas.
Tous les goûts sont dans la nature et tout ce qui est petit est mignon. Le complexe de Blanche-Neige continue de sévir. Certaines les aiment petits et travestis. Ce soir dans Tristement le Tragique.
Mesdames et messieurs, très honorés membres de l'Assemblée, aujourd'hui il faut éliminer, il faut faire disparaître, il faut faire cesser d'exister ou alors faire cesser d'être visible, c'est selon. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire des sacrifices. There is no alternative. C'est ça, l'histoire qu'on se raconte. C'est important, les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte sont, à vrai dire, de la plus haute importance. Elles sont capitales, comme l'est votre avis. Votre avis, mesdames et messieurs, très honorés membres de l'Assemblée, est d'une importance capitale. Ça fait peur. Mais les histoires qu'on se raconte, parfois, ça fait peur. Comme cette histoire qui raconte qu'il est possible qu'un jour, on te dise que tu ne fais plus partie de la communauté des humains. Jusqu'ici, tu pensais que oui, et tout à coup, tu découvres que non. Ton existence n'est pas une évidence, ça fait peur. Cette histoire qui raconte que des sociétés civilisées, parmi les plus civilisées, peuvent élaborer une théorie pour faire disparaître, comme ça pouf, du soir au matin, les hommes qui ne sont plus des hommes, ni même des animaux, à peine des objets, des poids morts, les poids morts de l'histoire, celles qu'on se raconte, ça fait peur. Cette histoire qui raconte que des sociétés civilisées, parmi les plus civilisées, peuvent concevoir des structures administratives gigantesques, des contrôles, des formulaires, des décrets, des rails, sur lesquels on peut placer les inutiles au monde, les inemployables, les inemployés, les surnuméraires, pour les extraire d'une société de laquelle ils ne font pas partie. Pas parce qu'ils font quelque chose, non, parce qu'ils sont quelque chose, fondamentalement. Des gens qui, par une certaine attitude, par une certaine nature humaine, pourrissent le fonctionnement de la société. Parce qu'ils sont nocifs, parce que c'est l'histoire qu'on se raconte. Les gens s'imaginent parfois qu'ils ont le droit d'exister. Les gens s'imaginent parfois que nous n'avons pas le droit de remettre en question leur utilité. Mais les gens oublient qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut faire des sacrifices. There is no alternative, c'est ça, l'histoire qu'on se raconte. Et les histoires qu'on se raconte, mesdames et messieurs, très honorés membres de l'Assemblée, sont d'une importance capitale.
La civilisation occidentale a pris conscience que par sa puissance, que par sa force, elle s'étendait à la terre entière et qu'elle menaçait l'existence de milliers de petites sociétés dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Tout ce que l'on peut dire ou faire, c'est espérer que dans cette espèce de grande synthèse qui est en train de s'opérer d'un bout à l'autre de la Terre, apparaîtront de nouvelles différences, de nouvelles originalités qui, sous des formes que nous ne pouvons pas soupçonner, aideront l'humanité à rester créatrice.
À la bouse bégargouée, 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 à la rayon elle de guillet, à la bouse bégargouée, la rayon elle de guillet. Merci.
Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers. Sur Radio Piquesse.